Bonjour et bienvenue dans l'émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Retrouvez toute notre actualité sur le site mariedenazareth.com. N'hésitez pas à découvrir nos mails quotidiens qui porteront spirituellement votre journée, comme par exemple une minute avec Marie ou un saint miracle, mille raisons de croire. Il y en a une bonne dizaine et c'est certain, vous serez accrochés par au moins une publication. C'est très simple, vous pouvez aussi facilement vous abonner et vous désabonner. Et bien évidemment, c'est gratuit. Alors cette semaine, Justina, nous parlerons de la Toussaint. Quelle drôle d'idée. Nous sommes le 30 juin, ce n'est pourtant pas trop l'époque. Bonjour Justina.
Bonjour.
Puis nous parlerons de nouveau des EMI grâce à Patrick Sbalquero. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Je vous rappelle que vous pouvez poursuivre votre découverte des EMI en allant acheter notre magazine 1000 raisons de croire en kiosque, en maison de presse, librairie et en grande surface. Mettez-les bien devant pour que tout le monde les voit et puisse les acheter. Alors voilà, vous imaginez bien que ça ne plaît pas à tout le monde, mais faites-en la pub. Si vous avez des soucis pour le trouver, vous pouvez appeler notre permanence téléphonique au 01 42 50 19 65. On trouve le numéro de téléphone sur le site. Tous les jours de la semaine de 10h à midi et de 14h à 16h. Alors, je vous préviens, durant l'été, nous serons parfois obligés de mettre le répondeur. Je vais faire une petite annonce. J'en profite pour recruter. Si vous avez 2 heures à nous offrir dans la semaine, nous cherchons de bonnes âmes pour répondre au téléphone. Alors, c'est très simple. De votre portable, où que vous soyez, vous pouvez nous rendre ce service car nous basculons aisément la ligne téléphonique sur votre numéro durant un créneau donné. Donc, merci si vous pouvez nous aider. Alors, après avoir fait ma pub, maintenant, nous allons démarrer. Justina, la Toussaint, un 30 juin, je ne comprends pas.
Oui, nous sommes le 30 juin et c'est dans l'église orthodoxe que nous fêtons la Toussaint. Oui. Et vous inquiétez pas, je n'oublierai pas nos amis occidentaux. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Donc, je vais profiter pour en parler dans le rite oriental, mais aussi tenter d'expliquer la raison de cette différence de date avec la tradition occidentale, car il se peut que les orientaux y soient pour quelque chose. Ah. Et ensuite, j'évoquerai la fête qui fait peur et qui peut faire polémique, Halloween.
Alors, très bien. Donc, la Toussaint, nous fêtons 1er novembre, puis après la fête des morts. Je le rappelle pour nos auditeurs, mais bon, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui confondent la Toussaint et la fête des morts. Donc là, on est bien dans la Toussaint.
On est bien dans la Toussaint. Ouais. La fête de la Toussaint, en tant que commémoration de tous les saints, remonte au IVe siècle, époque à laquelle nous pouvions trouver des homélies de saint Jean Chrysostome dédiées à cette fête. Dans l'hymnographie de saint Éphrem le Syrien, nous trouvons une mention de la fête de tous les saints le 13 mai. Le lectionnaire syriaque indique que la Toussaint fut fêtée le vendredi après Pâques. L'ordo de saint Théodore le Studite ainsi que l'ordo de Jérusalem place la Toussaint au premier dimanche après la Pentecôte. Cette mise en place de l'ordre des fêtes a une certaine logique. Les saints vécurent à des époques différentes, mais ils ont agi dans la grâce de l'Esprit-Saint qui est descendu sur l'Église le jour de la Pentecôte. Dans la tradition occidentale, nous savons que le pape Boniface IV a consacré un ancien temple païen, le fameux Panthéon à Rome. Il l'a consacré à la Mère de Dieu, ainsi qu'à tous les martyrs. À partir de cet événement, la Toussaint a été fêtée le 13 mai dans l'église d'Occident. C'est ce que je trouve curieux, c'est la coïncidence avec les informations rapportées par saint Éphrem le Syrien sur le 13 mai, qui pourtant a vécu en Syrie au IVe siècle, soit plus de 250 ans. Avant l'instauration du 13 mai en Occident. Ensuite, au milieu du 8e siècle, le pape Grégoire III a consacré à tous les saints une des chapelles de la basilique Saint-Pierre le 1er novembre, et depuis, on célébrait la Toussaint à Rome le 1er novembre. 100 ans plus tard, le pape Grégoire IV a ordonné que la Toussaint du 1er novembre soit fêtée partout en Occident. Mais est-ce que ce ne sont que les dates, d'accord, mais quelle peut être la cause de ce changement? Pour cela, il faut connaître un petit peu qui était le pape Grégoire III. Il était d'origine syrienne et son pontificat coïncide avec la période d'iconoclasme en Orient. Grégoire III était un opposant farouche d'iconoclasme durant lequel les orientaux ont détruit non seulement la quasi-totalité des icônes, mais aussi des reliques. Et il est d'ailleurs presque impossible de trouver des icônes qui datent d'avant cette crise. Grégoire III a ordonné l'édification d'un grand iconostase au centre de la basilique Saint-Pierre. On peut donc déduire que son geste de consécration de la chapelle de tous les saints, ainsi que la mise en place de l'iconostase, est une manifestation de ses convictions profondément iconodoules. Et le changement de date de la Toussaint en Occident est dû à la crise iconoclaste en Orient.
Alors j'ai une petite question, s'il vous plaît, Justina. Vous dites iconodoule et non pas iconodule. Il y a une différence entre les deux mots.
Je pense qu'il y en a aucune. Je le prononce juste à la grecque, iconodoulos, et je dois lire à l'ancienne. C'est moi qui fais une faute de français en privilégiant le grec, visiblement. Mais maintenant que nous savons tout cela, j'aimerais déjà souligner que la différence de date ne fait pas une différence de sens, mais reflète l'histoire de l'Église. Je dis cela surtout en m'adressant aux chrétiens orthodoxes souffrant d'un excès de zèle par rapport aux questions de calendrier et notamment leur déni total du 1er novembre. Maintenant, j'aimerais aborder brièvement le sujet qui fâche, la veille de la Toussaint en Occident, autrement dit, bouh, le grand méchant Halloween. Cette fête est vraiment mal vue en Europe. Chaque communauté chrétienne fait appel aux arguments différents. Les orthodoxes râlent. C'est une fête des papistes latins et des reptiliens satanistes, ce qui est une absurdité. Les catholiques accusent les protestants américains. Je me demande comment, sachant que les protestants américains ne vénèrent pas les saints et craignent l'esthétique sombre encore plus que tous les autres. Et seulement les catholiques irlandais mangent joyeusement les bonbons. Mettons donc les émotions et les théories de complot de côté, essayons de comprendre et voyons ce qu'on peut faire. Toute grande fête ecclésiale, peu importe le pays, connaît sa version profane et populaire, parfois avec un certain mélange de coutumes locales. Très souvent, dans l'avant-fête populaire, il y a un aspect de débauche. Le mardi gras avant le mercredi des cendres, en France. Le grand carnaval de Rio de Janeiro est aussi une version du mardi gras. Carnaval, dans son étymologie populaire, signifie littéralement « carne et viande, val et adieu, adieu la viande ». La fête de Saint-Patrick, l'apôtre d'Irlande, est plus associée dans la pop culture à la bière qu'à sa personnalité, et qui pourtant nous a laissé même des écrits, que je conseille vivement, la confession de Saint-Patrick et la prière, le bouclier de Saint-Patrick. Donc les veillées de Noël ont toujours été une occasion de mendier des confiseries en étant déguisé en créature poilue et parfois cornue dans les pays Balkans et en Europe de l'Est. Donc si on décide de combattre toutes les festivités populaires qui accompagnent les fêtes ecclésiales, nous allons contre l'approche traditionnelle de l'Église, de rester souple vis-à-vis des coutumes locales, tant qu'elle ne touche pas au dogme. C'est un bon moyen de devenir un mouvement religieux qui rapporte zéro valeur culturelle, car il cesse d'en produire. Je passe bonjour aux témoins de Jéhovah et à d'autres sectes. Finalement, quelque part, la définition d'une secte, elle ne produit pas de produits culturels qui dépassent sa confession. Nous connaissons des auteurs, que ce soit des écrivains catholiques, je pense à Tolkien, nous connaissons des écrivains, des auteurs anglicans, je pense à Clavi Lewis. Nous connaissons des compositeurs orthodoxes, des écrivains orthodoxes, Dostoïevski. Mais voilà, curieusement, quand il s'agit d'une secte, elle ne produit jamais rien. Donc, renoncer à tout produit culturel, c'est une logique qui serait déjà d'avant tout de se priver du soft power chrétien. Dans une société séculière, la version profane de la fête se détache totalement de son origine ecclésiale pour les personnes non pratiquantes et elles en font ce qu'elles veulent. C'est en fait, il faut vivre avec sans pour autant culpabiliser ou renier la fête si elle devient quelque chose qui ne nous plaît pas. Exemple, les athées, les agnostiques, les non pratiquants n'ont pas besoin de la Saint-Valentin pour forniquer ou commettre l'adultère. Tout comme les personnes qui prétendent pratiquer la sorcellerie n'ont pas besoin d'Halloween pour ça. Ils le feront de toute manière un autre jour, même si la version profane de la Toussaint n'existait pas. Donc, qu'est-ce qui dérange concrètement avec Halloween? Les déguisements pas très catholiques? Pitié, si on regarde les costumes de carnaval au Brésil ou les mendiants de Noël en Roumanie, c'est pas mieux. Et pourtant, personne ne s'oppose à cela et c'est littéralement pareil. La dominance à esthétique mortuaire, nous, chrétiens catholiques orthodoxes qui vénèrent les reliques des saints, que nous avons dans nos sanctuaires. Nous qui avons traumatisé le monde païen il y a 2000 ans par notre mépris de la mort, par notre absence de superstition vis-à-vis des ossements et de la souillure qui proviendraient des corps des défunts, nous avons trouvé dans les reliques les transmetteurs de grâce, nous qui vénérons le Christ crucifié, et c'est en 2024 que nous allons avoir peur d'un squelette en plastique et d'une chauve-souris en carton. J'espère bien que nous ne sommes pas si ridicules. Nous sommes libres de fêter ou de ne pas fêter Halloween. Si on choisit de le fêter, on peut le faire de manière chrétienne en se fondant sur l'histoire. Si on veut le fêter de manière chrétienne en tant qu'avant-fête de la fête de tous les saints, je rappelle que Halloween n'est qu'un raccourci de All Hallows Evening, la veillée de tous les saints. Oui. Il faut remonter à la source populaire chrétienne irlandaise, donc on peut tout à fait garder les déguisements. Après tout, le déguisement ne signifie pas du tout la vénération, bien au contraire, c'est de la parodie, donc on ridiculise le mal quand il est en carton. C'est bien pour cela que personnellement, quand les personnes se déguisent en personnage biblique pour mettre en scène les choses, je trouve ça plutôt ridiculisant que... voilà. Mais donc, surtout pas oublier pourquoi les chrétiens irlandais mendiaient les friandises. C'était un échange de prières, de commémoration des endormis dans l'espérance de la résurrection. Donc, au lieu de laisser le terrain d'Halloween aux autres, j'estime qu'on devrait le reprendre. Juste, au lieu de dire en bonbon ou en sort, on peut demander à ceux qui offrent des friandises des prénoms des personnes qui ont besoin de nos prières.
Eh bien, nous tenterons de faire cela le 31 octobre. Merci, Justina. Alors, écoutons à présent le Gaudeamus, car finalement, fêtons la Toussaint avec Justina et fêter deux fois dans l'année nos saints est bien sympathique. Ce Gaudeamus est extrait de Jacques Hoffmann, Les Ambroisiniens, chanté par le chœur d'hommes de la maîtrise de Dijon.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors poursuivons avec Patrick Sbalquero notre émission. Je rappelle que vous êtes historien, journaliste, écrivain, spécialiste de l'étude de phénomènes, dirions-nous, curieux. J'invite nos auditeurs à découvrir vos ouvrages sur Internet, dont certains, hélas, sont déjà en rupture de stock. Donc, bon, ça, c'est un petit peu dommage quand même. Hein. Alors, avant de commencer, est-ce que vous travaillez actuellement sur un prochain livre, j'imagine, non?
Oui,
j'ai un projet. Vous pouvez nous dire ce que c'est? C'est encore top secret.
Top secret défense, non, ah. je vais vous le dire. Je travaille sur un livre qui aura pour thème les rapports entre la médecine et la mystique chrétienne. Catholique, ah oui. Hein. Oui. Donc, quel regard portent et ont porté dans l'histoire depuis la fin du XVIIIe siècle les médecins sur les expériences mystiques et les phénomènes inexpliqués? Voilà, en deux mots.
Bon, on a hâte et on vous invitera.
C'est très gentil, merci.
Alors, nous parlions des changements de vie la dernière fois suite à une EMI.
Oui.
Et alors, nous avons décidé de parler d'EMI négative. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit tabou quand même derrière ces EMI négatifs, ou alors il y en a beaucoup moins, c'est pour ça qu'on en parle moins.
Il y a de toute manière un petit tabou vis-à-vis de toutes les EMI. Il y a un nombre important de gens qui n'osent pas parler, qui n'osent pas se confier. Il faut parfois des années, on a des cas de 10, 15, 20 ans, avant que la personne n'ose raconter, n'ose avouer son récit de Amy.
Mais pourtant, vu qu'il paraît que le changement de vie est phénoménal...
Oui, oui, mais la personne, le contenu de l'EMI est tellement extraordinaire, et c'est vrai que c'est extraordinaire, quand vous dites à quelqu'un de but en blanc, en le regardant dans les yeux, je peux voir à 360 degrés,
oui.
Où je vois l'appartement de mon grand-père situé à 2000 km alors oui. Que je suis allongé sur un lit d'hôpital, c'est, vous voyez, la communication humaine étant c'est un peu délicat. Et alors, a fortiori, les EMI négatives.
Oui.
Les EMI négatives, parce qu'alors là, on entre dans un domaine vraiment, vraiment particulier. Elles ne touchent les EMI négatives, j'ai envie de le dire, qu'une fraction, qu'une petite partie des EMI.
C'est-à-dire qu'au sein de l'EMI, il y a... c'est pas que du négatif.
Alors, il peut y avoir que du négatif, mais il y a le plus souvent... du négatif et du positif.
D'accord.
Alors, l'alliage entre le négatif et le positif ça peut être très variable. On peut avoir plus de négatif, plus de positif, ou l'inverse, plus de positif et moins de négatif. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui varie suivant les cas. Il n'y a pas de règle mathématique sur cette question.
Et alors, qu'est-ce qu'ils vivent ?
Alors, c'est assez incroyable, là encore, parce que les personnes décrivent non seulement des situations, des paysages par exemple, des éléments naturels, comme par exemple, on a beaucoup de cas de cavernes, d'anfractuosité minérale, des paysages tout à fait minéraux, très froids, etc. Et puis en même temps, c'est accompagné de sensations intérieures très 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 désagréables et parfois même de souffrances morales.
Oui.
Comme...
Et des souffrances physiques aussi, on a... ou alors à chaque fois, comme pour les positives, on n'a plus de...
Non, vraiment, la partie souffrance physique n'apparaît pas dans les récits.
Angoisse.
Mais
donc,
l'angoisse, voilà, l'anxiété, principalement de ne pouvoir se sortir tout simplement de cette situation angoissante, de cet environnement hostile, et de rester là un temps absolument indéterminé, sans... Alors, des paysages en général plongés dans une semi-obscurité ou une obscurité quasi totale.
Oui.
Et sans trace des êtres de lumière. Là, on est à l'extérieur. La lumière est totalement inconnue. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'anxiogène. D'anxiogène. Et alors, évidemment, chez certaines personnes, c'est l'explication qui ressurgit. On parle de vision infernale. On parle de vision infernale, notamment dans le cadre, évidemment, chrétien. Les gens peuvent comparer ça. Ils disent, on a l'impression que Dieu est si loin qu'il nous a totalement abandonnés, et définitivement abandonnés, et qu'on est perdu, en quelque sorte, pour l'éternité.
Mais vous dites froid, mais l'enfer, on l'imagine chaud.
Alors, il y a les deux. Oui, vous avez raison, les deux. C'est assez curieux, d'ailleurs, parce que les gens, il y a des récits qui parlent de flammes, enfin d'incendies, d'une chaleur absolument insupportable. Mais ce n'est pas la majorité des récits. La majorité des récits table sur quelque chose de très froid.
D'accord.
Très très froid. Quand je dis très très froid, c'est pas simplement un indice physique de température, c'est une absence d'amour complète et totale. C'est difficile à traduire, mais c'est le cas. C'est le cas. Et on a des sujets qui ont mémorisé cette expérience négative et qui, des années après, eh bien, le ressentent encore de manière extrêmement vivace, extrêmement vive, comme si le fait avait été imprimé dans l'imaginaire et dans le cœur, finalement.
Mais on doit être accablé quand on revient d'une telle expérience.
Oui, si vous ne passez pas par la seconde phase positive, ça peut être accablant. Il y a des gens qui ne repassent pas par la seconde phase positive.
Et alors, comment vivent-ils après ?
C'est, ça concerne une minorité, vraiment une minorité de cas. Ces personnes disent pourtant, nous n'avons plus peur de la mort, nous savons ce qu'il y a.
Il y a quand même quelque chose de positif.
C'est ça, c'est ça, dans le fruit finalement. Nous n'avons plus peur de la mort, nous savons en quelque sorte ce qu'il y a de notre côté, ou du moins nous avons vu le rideau légèrement se lever. Ce que j'ai vu est terrible, mais je vais essayer de corriger ma vie, de faire en sorte de ne pas voir justement ce rideau se lever à nouveau.
Oui,
voilà, c'est ce que disent les gens.
Alors, pour rapprocher tout cela de la foi chrétienne, c'est tout de même le but. Hein. Enfin, nous avons, par le biais de ces émis, comme une preuve, hein, mais là je mets de très gros guillemets, mais quand même pas, d'une vie après la mort ou quelque chose quand même.
Alors, le mot preuve est un mot, évidemment.
Alors, un mot qu'on aime beaucoup chez Marie de Nazareth,
oui,
le mot preuve.
Oui. Mais ce n'est pas un gros mot. Hein. C'est pas un gros mot, c'est un mot qui est chargé de signification. Je dirais que non, il n'y a pas de preuve arithmétique de la vie après la mort. Et en revanche, si l'on met sous le vocable de preuve un certain nombre de signes de cohérents,
oui.
Permanents et universels, oui, dans ce cas-là, nous avons des signes qui la conscience humaine, hein, l'esprit, ne s'éteint pas avec la matière. Il n'y a pas besoin de... La conscience n'a pas besoin d'un substrat organique, hein, du cerveau, pour continuer d'exister après la mort physique. Et ça, je crois que c'est tout de même, évidemment, du point de vue spirituel, essentiel. Mm-hmm. Hein, essentiel. C'est ce dont témoignent la plupart des gens qui reviennent des EMI. Pourquoi est-ce que ces gens se convertissent quelque part ?
Oui.
Se convertissent quelque part. On ne se convertit pas traditionnellement à la suite d'un arrêt cardiaque ou un traumatisme crânien. C'est assez rare tout de même.
Oui.
Donc là, il y a quelque chose. Et ce n'est pas une conversion à la légère qui pourrait être passagère. Voilà. Les promesses du début d'année qu'on ne tient jamais.
Oui.
Là, ce sont vraiment des engagements de vie, des engagements existentiels.
Définitifs.
C'est quand même très fort. Quoi. Et surtout, voilà, la peur de la mort qui n'existe plus.
Oui, ça, c'est quand même un fruit extraordinaire.
Ouais.
Oui, oui, très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, ce fameux tunnel dont vous parliez l'autre jour, c'est quelque chose d'assez étonnant. Tout le monde le passe par ce tunnel ou alors...
Non.
Non, d'accord.
Non, la plupart, oui, mais il y a des cas où le tunnel n'existe pas.
D'accord.
La personne est confrontée, peut-être confrontée directement à l'être de lumière. Et en fait, le scénario type que je vous ai décrit, mais il peut être bouleversé hein, dans
d'accord,
certains cas.
Ouais,
donc le tunnel n'est pas un passage strictement obligatoire. Je pense que... On a du mal, évidemment, à le concevoir, mais il faut sortir de son esprit que c'est un lieu matériel, comme un couloir de train ou ce que
d'accord.
vous voulez. Hein, c'est un, je dirais, un passage. Un
d'accord.
passage.
Alors, dans les écrits que j'ai lus, les vidéos que j'ai regardées, elles ont toutes le point en commun de parler de Jésus.
Oui.
Un bouddhiste... Qu'est-ce qu'il dira ? Parce que je n'ai pas vu de vidéo en chinois ou, vous voyez, pour toutes les autres religions. Comment appelle-t-il cet être de lumière que nous appelons Jésus, en fait ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, l'immense majorité des personnes, quelle que soit leur origine, ne voit pas un être humain avec des traits et des formes, un aspect
ils
corporel.
Ont l'intuition que
ils
c'est
ont,
Jésus.
C'est une intuition.
D'accord.
C'est ce que Sainte Thérèse d'Avila, enfin là c'est mon explication, Sainte Thérèse d'Avila peut-être nommer une vision intellectuelle.
D'accord.
Vous avez la certitude d'être en présence d'un être surnaturel, mais vous ne le voyez pas par vos yeux de chair.
Ouais.
Voyez-vous ? Et ça, je pense qu'il y a une analogie très forte.
Mais les autres l'appellent comment, cet être de
alors,
lumière ?
Alors, il y en a qui ne l'appellent pas, parce qu'ils ne savent pas.
D'accord.
Mais on a effectivement identifié un certain nombre de zones culturelles à travers le monde, comme par exemple le monde bouddhiste, eh bien, qui attribue cet être de lumière, qui dit, voilà, c'est Bouddha, c'est l'éveillé. Hein. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas
d'accord.
systématique. De même que dans le monde chrétien, même d'ailleurs des gens fervents qui vivent des EMI, eh bien, ne disent pas c'est Jésus. En revanche, quelle que soit la provenance géographique de la personne, tous disent c'est un être d'amour,
oui.
dont l'essence est amour. Ça, c'est quelle que soit la culture d'origine. Ça, c'est absolument fondamental.
Oui, Justina.
Je pense que ce qui est certain, c'est que dans le monde bouddhiste, quand l'expérience est négative, ils ne doivent pas être trop surpris par le froid, par contre.
Non, bien sûr.
Vu qu'il y a huit sortes d'enfer froid ça, dans le bouddhisme.
Non, bien vu. Non, tout à fait.
Est-ce que l'Église répertorie tout ça? Est-ce que l'Église travaille dessus ou alors elle fait très attention?
L'Église fait très attention sur, vous savez, tout ce qui est extraordinaire, d'une façon générale, pour différentes raisons. Et elle, bien sûr, elle connaît la littérature sur les EMI, ses récits, etc. Mais elle ne s'est pas prononcée par un acte qui engagerait son autorité quelconque. Ouais. La papauté, par exemple, le pape ou la congrégation pour la doctrine de la foi n'ont jamais dit « EMI, voyez, faites attention, etc. » Non, je pense que pour l'instant, elle attend. Elle attend. Elle regarde les fruits aussi, tout simplement. Et les fruits, en général, ne sont pas mauvais.
Oui,
donc...
c'est l'impression qu'on en a.
Voilà.
Bon, merci beaucoup, Patrick. Alors, vous vouliez juste terminer, lorsqu'on avait préparé cette émission, sur une mise en garde sur les courants ésotériques et l'EMI. Pourquoi est-ce que vous vouliez nous mettre en garde?
Écoutez, chacun d'entre nous consulte l'Internet souvent des heures, durant par jour, et il suffit de taper dans votre barre de recherche EMI et vous allez atterrir à un moment donné ou à un autre, c'est inévitable, sur des sites qui ont tendance à récupérer, à insérer, à enchâsser même, je dirais, les EMI dans un discours ésotérique, en particulier avec tout ce qui est lié à la réincarnation.
Ah oui,
ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qui revient de façon permanente. Alors, je trouve ça un petit peu dommage parce que, même hors christianisme, les grandes religions n'ont pas cherché jusqu'à maintenant à récupérer d'une certaine façon les EMI.
Oui,
L'Église catholique se tient à distance, les églises protestantes également, et donc les autres aussi. Et là, vous voyez, faire un business en disant voilà la preuve de la réincarnation, d'ailleurs on pourra en discuter très longtemps, non, je pense qu'il faut faire attention à ça.
Très bien. Merci infiniment, Patrick. La semaine prochaine, nous parlerons des stigmates. Vaste sujet. Bonne semaine à tous. Merci.
Merci.
Merci.